Aujourd'hui, eh bien, c'est le dimanche des orphelins. Alors, tout à l'heure, on va avoir une entrevue avec Diane Deslongchamps qui va nous partager son expérience comme fille adoptée, son expérience d'adoption, de tentative d'adoption et de parrainage. Et je ne vous en dis pas plus, vous allez pouvoir l'apprendre tout à l'heure. Salutations à ceux qui sont avec nous sur la toile. Eh bien, vous êtes peut-être en direct ou en différé. Alors, merci d'être là avec nous, c'est toujours agréable. Et pourquoi on fait un dimanche des orphelins? Eh bien, la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. Elle nous dit que de ne pas simplement être des gens de parole, des gens qui parlent. Mais Jacques va nous dire de prendre soin des veuves et des orphelins dans leur détresse. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça nous montre que le rôle d'un père, c'est primordial dans une famille. Et que lorsque une famille perd un parent, eh bien, à ce moment-là, ça désynchronise toute la famille. Et l'Église est la provision de Dieu pour notre communauté. En tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, représentant de Jésus-Christ, eh bien, on est là pour manifester le cœur de Dieu sur terre et dans notre communauté. Et ce qui est intéressant, c'est que adopter, ça veut dire choisir. Vous savez, étymologiquement, ce mot-là, si on prend sa racine, ça vient de adoptare, ça veut dire choisir, souhaiter. Alors, quand un enfant est adopté, il est choisi. On l'a voulu. Et ça, c'est extraordinaire parce que, au fil de l'histoire, l'adoption a eu un impact parce que ce qu'on voulait, c'était quand des parents n'avaient pas d'enfants, on voulait s'assurer un héritier. Et il fallait être riche à ce moment-là pour adopter. Il fallait avoir un statut spécial. Et donc, en termes de définition, l'adoption, c'est choisir quelqu'un pour fils ou pour fille et lui donner les droits civils en remplissant certaines conditions prescrites par la loi. Parce que d'un pays à l'autre, il y a différentes lois qui sont données pour l'adoption. Mais c'est tellement puissant, l'adoption, parce que même on a une expression dans notre vocabulaire, une expression courante, qui veut dire admettre, accepter, recevoir comme sien. Par exemple, j'ai adopté une philosophie, ou j'ai adopté un mode de vie, ou j'ai adopté un régime alimentaire. Donc, ça veut dire que je l'ai adopté, ça veut dire que je l'ai pris pour moi. Ça fait partie de moi. Donc, adopter, là, ça veut dire que tu prends un enfant puis il devient le tien. Et c'est clair que lorsqu'on est adopté, eh bien, il peut y avoir des comparaisons avec spécialement s'il y a des frères et des sœurs qui sont, par exemple, des enfants biologiques. Il peut y avoir des comparaisons, il peut y avoir, dire, bon, moi, je ne suis pas originaire d'eux, de mes parents. Et puis, on va poser la question à Diane tout à l'heure, comment elle a vécu ça? Parce qu'elle a vécu cette expérience-là. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que l'adoption a commencé à être populaire dans l'Antiquité. Et ce qui est arrivé, il y a un point vraiment déterminant dans l'histoire où est-ce que les historiens ont commencé à se pencher sur la question de l'adoption, c'est que quand le petit-neveu de Jules César a perdu son père à l'âge de 4 ans, donc il était orphelin de père, et il a grandi, et à l'âge de 18 ans, Jules César a adopté son petit-neveu. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir un héritier, un successeur, quelqu'un pour prendre la relève, pour gérer puis dominer l'Empire romain. Il l'a fait devenir son héritier. Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait avec nous. On voit dans Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 5, ça nous parle de l'adoption. mais ça met l'adoption dans son contexte. Qu'est-ce que le texte nous dit? « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Hein? » Ce qu'il a voulu. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, adopter, c'est choisir. Dieu a choisi ses enfants, il a adopté ses enfants. Il les a faits pour siens. Et ce qui est intéressant dans le contexte ici, ça nous montre qu'un enfant adopté, c'est un héritier, parce qu'on a accès à tout ce que Jésus-Christ a accès. Tout ce qui est en Jésus-Christ est à nous et pour nous. On prend part à tout ce que Dieu le Père a à donner à sa famille. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que moi, à chaque fois que le Seigneur me rappelle ce texte-là, ça me rappelle que je ne suis pas abandonné, je ne suis pas seul au monde, et j'ai comme Dieu un Père qui a tout prévu pour moi, dans cette vie sur cette terre et dans l'éternité. Et pourquoi c'est important de prendre soin des orphelins? Spécialement en 2017. Tiens-vous pourquoi? Parce que, un, il y a un besoin. Parce que quand il manque un parent, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un manque, il y a une carence. Et également parce que c'est une pratique qui est en déclin. Et j'ai été surpris. Ça nous dit que dans les pays qui adoptent le plus de mineurs à l'international, le nombre annuel a chuté de près des deux tiers depuis 2004. En 2004 et 2013, dans les 10 pays qui adoptent le plus, il y a eu une chute de 64 % d'adoption. C'est énorme. C'est presque deux tiers. Au Québec, le nombre de parents québécois qui adoptent à l'étranger a chuté drastiquement depuis une dizaine d'années. En 2003, 908 enfants ont été adoptés à l'étranger, un sommet contre 231 en 2014. Ça, c'est une chute de 75 %. Les besoins sont toujours là, mais la demande diminue. Et pourquoi? C'est important, en tant qu'Église, en tant que communauté, on s'intéresse aux orphelins. Bien, parce que j'aimerais vous partager trois textes rapidement. Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Ça nous dit dans Deutéronome 27, 19, « Maudit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. » Dieu veut qu'on soit une source de protection, veut que son peuple soit une source de protection pour la veuve et l'orphelin. Je me souviens, il y a un frère qui était à l'Assemblée ici, et quand Nathalie, mon épouse, était veuve, elle a perdu son mari qui est mort du cancer. Eh bien, lui, il avait un camion avec une pelle, puis il venait déneiger tous les matins, qu'il y avait une grosse bordée de neige, l'entrée, puis c'est ceux qui sont venus chez nous, l'entrée, c'est assez long, là. Ça peut prendre des journées à pelleter à bras. Et lui, Nathalie, a demandé, « Pourquoi tu fais ça pour moi? » Elle dit, « La parole de Dieu nous dit de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. » Tellement touchant comme geste. Lui, ça lui prenait combien de temps? À peu près 15 minutes environ? 15 minutes de son temps. Mais combien c'était précieux pour Nathalie. Ce sont des gestes comme ça qui font toute la différence. Psaume 10, 14. « Tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » C'est pas précieux, ça. Si tu es un orphelin ici, rappelle-toi que tu peux te lancer dans les bras de Dieu. Et puis là, souvent la réaction humaine, c'est de dire, « Ouais, mais Dieu, on ne le voit pas, il est invisible, on ne le sent pas, on ne le touche pas. » Mais c'est ça la beauté de l'Église. L'Église est comparée à un corps. n'est pas pour rien que le Seigneur a donné cette métaphore-là, on est le corps de Christ. Dieu envoie ses bras d'amour. Et il va placer sur ton chemin, à un moment donné, tu vas voir, hey, il a entendu mon cri. Des fois, tu peux dire, hey, j'aurais juste besoin que quelqu'un me serre dans ses bras. Et moi, ça m'est arrivé à quelques reprises de prier ça, puis une journée ou deux après, de voir un petit enfant courir, puis me serrer les jambes. Puis moi, je disais, wow, Seigneur, t'as entendu. Et c'est des petits clins d'œil comme ça qui font toute la différence. C'est sûr que, en tant qu'humain, on a des besoins qui sont sans limite, sans fond. Mais à chaque fois que le Seigneur vient nous toucher, eh bien, tout ce qu'il nous demande, c'est de manifester une appréciation. Jérémie 49, 11. Abandonne donc tes orphelins. Moi, je les garderai en vie. Quant à tes veuves, qu'elles placent leur confiance en moi. S'attendre à Dieu. Et les veuves et les orphelins doivent s'attendre à Dieu. Et l'Église, on est la réponse de Dieu pour ces gens-là. C'est pour ça qu'on a un projet à Mataba. Et Vincent, tout à l'heure, va venir prier. Vous pourriez le voir tout à l'heure à l'extérieur, dans le foyer, pour lui poser des questions. Parce qu'il y a 35 orphelins qui sont pris en charge. Et puis, on a un programme de parrainage pour les aider. Et ça fait toute la différence, l'aide qu'on peut leur apporter. Au niveau de l'éducation, au niveau des uniformes, au niveau du matériel scolaire. Et puis, notre surplus contribue à ce que des gens démunis, des enfants démunis, des orphelins, puissent vivre une meilleure qualité de vie. Et à ce stade-ci, j'aimerais inviter Diane à monter, parce que là, on va parler ensemble de son expérience de vie à plusieurs niveaux. Et c'est ça qui va être intéressant, ça va être sous forme d'entrevue. Et vous allez pouvoir entendre ce qu'elle a vécu. Et il y a un beau parcours, il y a des belles perles dans son cheminement. Et ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Viens-t'en, Diane. Oui, oui. Merci, Vincent.
Bonjour tout le monde.
C'est lui, Vincent, que vous pourrez voir tout à l'heure.
Je ne sais pas si on m'entend. Hein? Est-ce que vous m'entendez?
Non.
Oui, OK.
Oui, OK. Parfait. Oui, Diane, avant qu'on débute officiellement l'entrevue, parce que Diane n'a pas simplement une expérience au niveau de l'adoption, du parrainage, mais on se connaît, ça fait longtemps, Diane. On a œuvré ensemble à l'Institut biblique à la fin des années 90, début 2000. Et Diane, c'est une femme, on pourrait dire, c'est une femme d'hospitalité. Elle aime recevoir. Elle est une femme d'hospitalité de par sa personne, mais aussi de par ce qu'elle fait. Lorsque vous arrivez chez eux, c'est comme si vous êtes pris en charge. Même des fois, on fait des farces, Nathalie et moi, on dit on s'en vient à notre bed and breakfast. Alors, c'est vraiment le fun. Mais attendez, quand, dans le temps des fêtes, par exemple, vous avez une grande table, vous avez même agrandi votre salle à dîner, quand tu as tous tes enfants, tes petits-enfants avec les conjoints et conjointes, vous êtes combien?
Pour le moment, on est 23. On va être 24 au mois de juin.
Donc, tu as 4 enfants, puis combien de petits-enfants?
13, avec un 14e en route.
Wow! Alors, c'est. Est-ce qu'il y en a ici qui ont plus que 13 petits-enfants?
Les Énormands.
Les Énormands, oui. Mais ça a monté d'un bond. Hein? Et donc, avant qu'on débute, j'aimerais ça qu'on puisse remettre ce temps au Seigneur. Et puis, ça, c'est un temps qui est précieux, c'est un temps qui est. Il va peut-être être exigeant pour toi, mais je pense qu'il va enrichir toute l'Assemblée ici. Fait que, on va remettre ça temps, Seigneur. Seigneur, merci pour la belle histoire de Diane et qui n'est pas terminée. Il y a encore des pages à écrire dans son histoire de vie. Mais maintenant, on te demande aujourd'hui que ton esprit nous dirige et nous visite pour que chaque personne ici puisse être enrichie, touchée de ta part et qu'on puisse être tous sensibilisés au fait qu'il y a des enfants qui ont besoin de nous. On te remercie dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.
Amen.
Donc, toi, tu as été adopté, mais comme on l'a vu tout à l'heure, le petit-neveu de Jules César a été adopté à 18 ans. Puis moi, je connais quelqu'un qui a été adopté, il avait 13 ou 14 ans. Toi, c'est à quel âge que tu as été adopté?
J'ai été adoptée, j'avais à peine un mois. Je réalisais hier que je suis née comme Jésus dans une crèche. C'était comme sa première fois que je pensais à ça. Je suis née comme je suis née à la crèche de la Miséricorde à Montréal.
Puis ça, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, tu sais, pour ceux qui ont, par exemple, 50, autour de 50 ans et plus, ils savent c'est quoi une crèche, mais peux-tu nous dire rapidement c'est quoi une crèche?
Une crèche, c'était comme un hôpital où les femmes allaient, les femmes surtout qui étaient, qui avaient des enfants illégitimement, qui ne pouvaient pas garder leur bébé, ils partaient, la famille les envoyait pour cacher la grossesse à la famille, les envoyait à... dans une crèche qui était comme un hôpital. Puis pendant le temps de leur grossesse, faisaient des mini-travaux, couture, travaillaient avec les religieuses là-bas. Puis tout le temps de leur grossesse, ils accouchaient là. Ils ne voyaient pas leur bébé. Puis après ça, les bébés étaient mis dans des grandes salles avec des petits berceaux. Et puis les mamans retournaient chez eux sans bébé.
Mm-hmm. Parce que c'était la culture de l'époque. C'était honteux d'avoir un enfant en dehors du mariage.
Hein? Oui, c'était au niveau de la religion catholique. Mais même, je pense qu'à travers la planète, autrefois, d'avoir des enfants sans conjoint, c'est même on le voit avec Marie, c'était comme une honte, elle a voulu se cacher, puis fait que c'était pas dans les normes, mettons.
Oui, c'est ça. Mais toi, vu que tu avais un an, c'est évident que tu n'étais pas consciente que tu étais adoptée. Mais à quel âge tu as appris que tu étais adoptée? Parce qu'à un moment donné, les parents, en règle générale, vont l'expliquer, vont l'annoncer.
Oui, il y en a qui le disent pas, mauvaise idée. Je pense que quand on est tout petit, on a une ouverture d'apprendre par l'histoire. Alors, ma mère, elle me racontait l'histoire de mon arrivée dans la famille. J'avais déjà un frère qui avait 8 ans plus que moi. Et puis, c'était leur fils légitime qu'ils avaient eu ensemble. Puis, ma mère ne pouvait pas avoir d'autres enfants après. Donc, ils sont venus me chercher à la crèche de la Miséricorde. Fait que elle me racontait mon histoire. Puis, mon histoire, c'était... Elle me racontait ça comme un peu, on raconte les histoires des enfants avant de faire dodo. Et puis, aussi loin que je peux me rappeler, elle me racontait cette histoire-là tous les soirs, jusqu'à un certain moment donné où je commençais à savoir c'était quoi l'histoire. Puis, tu veux que je raconte l'histoire?
Bien sûr.
C'est que, vu qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, ma mère a dit à mon père, « Qu'est-ce que tu en penses, on adopte? » Il a dit, « Ben oui, pas de problème. » Les hommes, à l'époque, c'était comme ces affaires de la femme, là. Fait que ils ont fait leur demande. 3 semaines après, ils ont eu un appel comme quoi ils pouvaient venir chercher leur petite fille parce qu'ils voulaient avoir une fille. Fait qu'ils sont arrivés dans la grande salle avec la religieuse, mon père, ma mère. Puis là, ils ont passé devant tous les petits berceaux puis se sont choisis une belle grosse popoune. Et puis, ma mère l'avait dans les bras. Puis, elle s'en allait pour signer les papiers. Puis, elle est passée devant mon petit berceau. Puis, j'étais très malade. À un mois, je pesais 4 livres. Parce que j'avais une gastro-entérite, fait que j'étais vraiment rachitique, puis mais j'avais, ce qui fait que j'avais des grands yeux noirs, puis je les avais ouverts, puis quand elle a passé, c'est comme si on s'était regardé. C'était inconscient, là, mais Dieu savait. Et puis, elle a dit à la religieuse, elle a dit à mon père, elle a dit, je voudrais changer, qu'est-ce que t'en penses? Fait que mon père a dit, ben, c'est ton affaire, là, moi, un bébé ou un autre, c'est pas grave. Puis la religieuse a dit, ben, tant que les papiers sont pas signés, il n'y a pas de problème. Fait qu'elle a changé de bébé pour moi. Fait qu'ils ont dit, la seule affaire, c'est que cet enfant-là risque de mourir parce que la gastro, dans ce temps-là, ça ne se traitait pas comme aujourd'hui. Fait qu'ils ont quand même décidé de me prendre. Puis pendant 6 mois, ma mère me nourrit jour et nuit. Et ça sortait des 2 bouts, jour et nuit. Jusqu'à 6 mois où j'étais un des plus gros bébés de la goutte de lait, parce qu'elle m'avait tellement nourrie, même si ça sortait, elle me nourrissait tout le temps, puis j'ai fini par guérir, mais elle est tombée malade. Fait que c'est toute cette histoire-là qu'elle me racontait, comment j'avais été choisie, puis tellement bien soignée, que c'était comme, waouh, c'était mon histoire, ça, c'était une belle histoire.
Mm-hmm. Mais c'est peut-être pour ça que maintenant, ta gastro, non mais... Je peux m'en permettre, on se connaît bien. Mais blague à part, là.
Oui, blague à cochon.
Oui. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans mon introduction. Bon, il y a 8 ans de différence. Je peux comprendre, moi, mon frère Luc, on a 8 ans de différence ensemble. Et donc, quand tu partageais ça, moi, ça me faisait penser à toutes sortes. Il y a plein d'histoires entre mon frère et moi. Bon, on était deux enfants biologiques, si on peut dire. Mais toi, là, il y a déjà un décalage d'âge, 8 ans. Lui, c'est le fils légitime, si on peut dire. J'aime pas trop cette expression-là, mais pour qu'on se comprenne. Et toi, tu es l'enfant adopté. Il se passe quoi? Comment ça se vit? Est-ce que tu as trouvé ça difficile?
Quand je suis arrivée, non. Et mon frère avait 8 ans. Fait qu'à 8 ans, un petit enfant de 8 ans, il est content de voir arriver une petite sœur. Puis il criait dans le village, il se promenait avec moi en pousse-pousse. Puis il disait, c'est ma petite sœur. Ma mère, elle ne l'avait jamais vue enceinte parce qu'il était venu me chercher. Fait que ça s'est fait très vite. Il était très content. Mais au fil du temps, puisque j'étais l'enfant désiré depuis 8 ans, et que ma mère voulait avoir une fille. Ma mère aussi vient d'un passé où est-ce qu'elle avait perdu sa mère très jeune. Fait que je suis devenue comme... J'ai pris trop de place. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention quand on a des enfants adoptés. C'est qu'on veut tellement qu'ils se sentent bien. Puis on veut tellement qu'ils... Surtout à l'époque, ce qu'on pensait des enfants adoptés, c'est qu'on se disait, on se demande qu'est-ce qui va sortir de bon de cet enfant-là. Pas les parents qui adoptaient. Mais la famille élargie se disait, ils ont été chercher un enfant. Moi non plus, j'aime pas ce mot-là, mais bâtard. Fait qu'on se demandait à l'époque, c'était quoi? Bien, il va sortir quoi? Là? Elle vient de quoi? C'est quoi ses antécédents? Puis tout ça. Fait que ma mère, puis mon père, mais surtout ma mère, elle a beaucoup mis sur moi. Puis c'était bien, bien important que j'incarne. Fallait que je sois l'enfant parfaite. Fait qu'il y avait des attentes sur moi. Fait que ça l'a comme mis mon frère un peu dans l'ombre. Ça a été un peu ça... Puis mon frère, plus tard, j'ai su que ça avait été très difficile pour lui. Mais maintenant, ça va bien. On a une belle relation. Mm-hmm. Tout est correct, là.
Mais est-ce que tu le ressentais, ça, qu'il trouvait ça difficile? Ou...
Non. Non? Je n'étais pas consciente de ça. J'ai vraiment su, quand j'étais mariée avec des enfants, qu'il avait trouvé ça très difficile. Ça l'a rendu dépressif au point de vouloir se suicider. Mm. C'était vraiment difficile. Fait que mes parents m'ont aimé, mais m'ont mal aimé. C'est difficile d'aimer. Hein? On aime comme on peut, mais avec les manques qu'on a aussi, ben des fois, on fait des erreurs.
Ben oui, c'est ça. Et donc, tu grandis avec un frère qui est plus vieux, mais à 14 ans, il se passe quelque chose dans ta vie. C'est quoi qui se passe à 14 ans? J'ai appris que ça s'est passé dans un corridor.
Ah, bon, ça, c'était pas dans ce que je t'ai envoyé. OK. Bien, quand j'étais jeune, je peux-tu revenir un peu en arrière? Parce que je faisais avec ma mère, elle me racontait mon histoire, puis après ça, on faisait l'acte de contrition. Pour les plus vieux, vous savez c'est quoi? Pour les plus jeunes, c'est de remettre à Dieu notre journée, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de pas bien, si on a fait des choses mal, on demande pardon à Dieu, puis ce qu'on a fait de bien, bon, on remercie Dieu, puis je dis merci papa, merci maman, merci pour mon frère Alain, puis tout ça. Merci pour mon chien. Et puis ça, c'est... Mais quand tu es appelé de Dieu, Dieu se sert de tout et de rien. Et puis ça m'a amené à une relation avec Dieu, une communion avec Dieu. Fait que j'avais, sans avoir d'enseignement biblique, sinon l'Église catholique, la catéchèse à l'école, j'avais développé une relation avec Dieu qui était vraiment importante pour moi. Puis quand je suis arrivée à l'école secondaire, moi, les garçons, puisque mon frère, la seule relation que j'avais avec lui était rendue comme à 22 ans, moi j'avais 14 ans, c'était comme on se tiraillait, on s'envoyait la lavette de vaisselle d'en face. C'était comme, moi les gars, ça ne m'intéressait pas du tout. Fait que c'était clair pour moi, ben, ça ne m'intéressait pas, c'était mes études. Pour que ça, il n'y a pas d'autre chose qui m'intéressait, c'était mes études, puis j'étais une fille sérieuse. Fait que l'année de mes 14 ans, j'avais à peine 14 ans. Je parle, c'est moi qui ai le micro, je suis contente. J'avais à peine 14 ans. Il y a un garçon qui a commencé à me tourner autour pendant 6 mois. C'était Serge, mon mari. Et puis, il a été très, très persévérant, mais... fait qu'on commençait à se fréquenter. J'avais 14 ans, puis il y avait 19 ans. C'est pas une bonne chose, là. Si jamais il y en a des jeunes, si c'est pas la meilleure chose, mais ça, Dieu était souverain là-dedans.
Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, vous vous êtes rencontrés, vous êtes côtoyés, puis vous avez vécu ensemble une démarche puis une expérience spirituelle.
Oui, on s'est fréquentés une année, et puis à l'école secondaire toujours, à un moment donné, il y avait un groupe qu'on avait qualifié de « Jesus Freak ». C'était des chrétiens qui se réunissaient, des jeunes, puis qui chantaient, puis qui parlaient de Jésus. Puis on était quand même attirés. Puis moi, le fait que j'ai sorti avec Serge, ça m'a comme un peu éloignée de ma communion avec Dieu. Il y avait quelque chose d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris la place de Dieu, en fait. Et puis, bon, on s'est approché d'eux, puis tranquillement, pas vite, assez vite. Serge a accepté le Seigneur, puis moi, je voulais être sûre de mon salut, fait que j'ai fait la prière de repentance, je voulais juste être sûre. Fait que, on a commencé notre marche officielle avec Dieu, avec l'enseignement biblique. J'avais 15 ans, Serge avait 19 ans, 20 ans.
C'est bon ça. Puis là, les années ont suivi, tu as eu des enfants, et puis vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, tout ça. Puis, est-ce que le fait d'avoir eu des enfants, ça t'a donné le goût d'adopter, toi?
Au départ, vu qu'on s'est fréquentés pendant 5 ans et demi, mon but premier, c'était de me marier. Je me suis mariée, on s'est mariés, j'avais 19 ans. Et puis, une fois mariée, j'ai réalisé que je pouvais avoir des enfants. Puis on avait été au camp Brochet, puis il y avait un couple de missionnaires qui avaient, eux, adopté des petits Chinois, un couple de jumeaux, un garçon puis une fille chinoise. Puis ça a comme un malaise. On peut avoir des enfants, on peut adopter. Mais après ça, je disais, non, mais on peut en avoir des enfants. Fait que là, on a commencé à avoir des enfants. J'ai eu 6 grossesses, 4 enfants. Et puis, l'adoption est venue un petit peu plus tard. Disons qu'en 19 et 29, j'ai eu 6 grossesses, j'allais allaiter 4 bébés. J'ai fait 2 années d'université, 3 ans de cégep, je suis devenue infirmière. En tout cas, c'était 10 ans très, très occupée. Et puis, ma dernière avait 4 ans, je disais à Serge, j'aimerais ça redonner au suivant. J'étais adoptée, j'ai eu le privilège d'avoir une bonne famille. J'aimerais ça adopter un enfant. Fait qu'on est embarqué dans ce projet-là d'adoption. On n'avait vraiment pas d'argent. Et c'est l'Église qui nous a soutenus. On a vendu des choses, la table de cuisine, tout y a passé. Fait qu'on est parti pour adopter un enfant en Colombie. Mm-hmm. Qu'on a désadopté 3 semaines plus tard. C'était une histoire d'horreur. C'est quand on parle de tes statistiques, j'étais surprise d'entendre que le taux d'adoption avait baissé, mais quelque part, il y a eu beaucoup d'histoires de magouilles des autres pays. Quelque part, ils te vendent des enfants. Puis pour nous, ils avaient essayé de nous passer un enfant qui avait été refusé par 9 pays avant le Canada. Fait que c'était vraiment, vraiment triste. C'est un enfant d'institution. Et puis si on l'avait pris, ça l'aurait vraiment hypothéqué nos 4 autres enfants. Puis c'était pas le but. Le but, c'était d'aimer un enfant, l'intégrer dans notre famille. On savait que c'était pour être difficile parce que c'est des enfants en Colombie. C'était dans le temps où il y avait la drogue, tout ça, dans les années 90. Et c'est ça. Fait qu'on a désadopté. Mais on a voulu adopter, mais on a jeté notre dossier. Après ça, on a voulu adopter en Bosnie. Dieu a fermé les portes. Fait que j'ai dit, Seigneur, si tu veux qu'on adopte ou qu'on prenne soin d'un autre enfant, tu viendras le porter sur le pas de la porte si tu t'arranges avec ça. Voilà.
Ça devait être une expérience déchirante, hein, parce que vous l'avez eu pendant quelques jours, cet enfant-là.
On a vécu avec elle 1 semaine. On avait amené notre plus jeune qui avait 4 ans. Stella avait environ 8-9 ans. C'était pas clair parce qu'il n'y avait pas de papier. C'est un enfant vraiment abandonné dans la rue. Fait que oui, c'est déchirant parce que quand tu vas adopter, on m'avait dit... tu t'en vas adopter en Colombie. L'agence avec laquelle on faisait affaire nous avait dit « si vous la trouvez trop noire ». J'étais comme, vous pouvez la rapporter. C'était comme, voyons, si je m'en vais adopter, quelle couleur, ça me dérange pas, là, c'est pas ça. Fait que, mais ça n'a pas été ça, là. Ça a été, ça aurait été tellement lourd, fait qu'on s'est réveillé à un moment donné, j'ai dit, Serge, on ne peut pas la garder, Stella, il faut qu'il nous donne un autre enfant parce qu'on va trop hypothéquer nos propres enfants. Fait que ça a été déchirant parce qu'on a tout fait. On a dit, donnez-nous un garçon, une fille, peu importe l'âge, mais pas plus vieux que notre plus vieux, parce qu'on ne voulait pas devancer ce qu'on avait comme expérience comme parents. Mm-hmm. Mais finalement, non, c'était vraiment de la mafia d'adoption, là, mm-hmm. pour notre expérience à nous.
C'est quasiment une histoire de film, cette histoire-là. Hein? Mais ouais. C'est malheureux. Mais toi, est-ce que le fait que tu aies été adopté, t'as voulu savoir d'où tu venais, qui étaient tes parents? Est-ce qu'à un moment donné, ça a piqué ta curiosité, ce désir-là, est-ce qu'il est venu?
C'est sûr que j'étais curieuse. Quand j'étais petite, je me disais, je me regardais dans le miroir, là, c'est sans prétention que je vous dis ça, là, mais je m'imaginais, tu sais qu'on est enfant, on fabule. Là. Mm-hmm. Je regardais dans le miroir, je dis, ah, ma mère, ça doit être Elizabeth Taylor. Fait que pour ceux qui la connaissent, une actrice américaine, mais tu sais, c'est comme... je fabulais dans ma tête, mais c'était comme, je savais que si ma mère biologique m'avait abandonnée, c'est pas parce que, je me suis dit, si je ressemble à ma mère, ça c'était ma réflexion, si je ressemble à ma mère, moi, est-ce que j'abandonnerais mon bébé? Non, jamais. Je ferais tout pour le garder. Fait que si je ressemble à ma mère, si elle m'a donné en adoption, c'est parce qu'elle avait vraiment pas le choix. Mm-hmm. Fait que j'ai jamais eu d'amertume, j'ai jamais rien eu. Mais c'est sûr que j'étais curieuse de savoir, parce qu'à enceinte, je venais énorme. Fait que je me disais, c'est une grosse Italienne, ma mère? C'est quoi? Je viens de où? Moi, je suis une Libanaise, grecque, italienne, je suis québécoise. Fait que j'étais curieuse pour ça, mais j'avais pas de vide intérieur. Dieu avait comblé mon cœur puis mon âme. Mais j'ai quand même fait des démarches.
Tu as fait des démarches. Puis est-ce que tu as retrouvé tes parents?
Ben, en fait, je cherchais pas mon père. Je sais pas pourquoi. Excusez-moi, les messieurs. Je cherchais ma mère. Et puis, je pense aussi que c'est plus facile de retrouver la mère à cause que c'est elle qui accouche, là, je pense. J'ai fait les démarches en 99. Savoir au moins si j'étais québécoise. Je veux savoir. Puis, j'ai reçu mes papiers légaux que j'aurais dû recevoir de mes parents adoptifs, qui auraient dû me les montrer, mais parce que c'était un peu caché, là, c'était devenu un sujet tabou, l'adoption chez nous, je ne les ai pas eus. Fait que quand j'ai reçu mes papiers, j'ai su que j'étais québécoise, que j'étais issue du fruit d'une passion amoureuse entre un homme et une femme, puis je me suis dit, pour quelle raison, mais ils ne pouvaient pas me garder. Fait que, bon, j'étais contente, je savais que j'étais québécoise, ça ne m'aurait pas dérangé d'être à quelque chose d'autre, mais là, je savais que j'étais québécoise, puis que ben, mes parents s'aimaient, puis ils n'ont pas pu me garder. Bon, l'histoire s'arrête là. Mm-hmm. 4 ans plus tard.
C'est ça qu'on va entendre.
Ouais. 4 ans plus tard, Carole, la femme avec qui Eric était marié, avait retrouvé sa sœur. Fait que elle me disait, Diane, ça te tente pas, toi, retrouver ta mère avec c'est pas trop tard. Fait que ça. Mes parents, ils vieillissaient, puis quand ils ont eu leur diagnostic, tous les deux de démence de type Alzheimer, je me suis dit, bon, ben, le temps de faire les démarches, la maladie, j'étais infirmière de profession. Donc, je disais la maladie, ils seront plus trop conscients que je retrouve ma mère si je fais les démarches maintenant. Fait que je commençais à faire les démarches. Et puis, j'ai envoyé mes papiers, je travaillais pour toi. Je me souviens, j'ai envoyé mes papiers un matin du mois de septembre, puis début janvier, on m'appelle, janvier 2004. On m'appelle, on a retrouvé ta mère. Fait que là, les démarches se sont faites rapidement, là, qu'on s'est rencontrés. Puis, j'arrive dans la chambre où ma mère était. Puis pour moi, c'était clair, c'était ma mère. Autant que c'était ma mère adoptive, je suis très reconnaissante à mes parents adoptifs, c'est mes parents. Ben moi, j'avais deux mamans. Puis quand je l'ai vue, je l'ai pris dans mes bras, puis je lui ai dit « maman ». Puis ma mère, elle a pleuré. Fait que là, je raconte la suite.
Bien, c'est sûr.
Voulez-vous savoir la suite? T'es est-ce que je suis née d'une passion amoureuse? Mm-hmm. Alors, ma mère a dit, elle a pleuré parce qu'elle ne s'attendait pas que je l'accueille comme ça. Le fait qu'on est croyant aussi, Dieu nous comble. Hein? Fait que on n'est pas dans des démarches de pourquoi. Puis elle a dit, c'est quoi que tu sais? Fait que je dis, ben que tu étais tombée en amour avec mon père quand tu étais jeune, mais je ne savais même pas quel âge, puis que tu n'as pas pu me garder. Là, je ne me souviens même plus de l'histoire, en fait. Fait que là, elle a dit, non, c'est pas ça, il faut que je te raconte. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, elle m'a déboulé ça vite parce que la travailleuse sociale était dans l'autre pièce, puis on avait comme une heure ensemble avant qu'on sorte de la pièce, puis il y avait ma sœur qui était là, de l'autre côté. Elle dit, moi, je viens d'une famille extrêmement pauvre. La toilette était dehors. On se lavait à l'eau froide dans le lavabo de la cuisine. Puis c'est une grande famille. Mon père et son père à elle est décédé alors qu'elle avait 13 ans. Puis à un moment donné, il n'y avait pas la télévision naturellement. Fait qu'il allait chez les voisins. Il vivait dans un rang dans la Saint-Roch-le-Chigan. Il vivait dans un rang. Puis il allait, fait que les maisons étaient distancées, fait qu'il allait voir la télévision chez les voisins. Puis un soir, qu'est-ce qu'elle faisait jamais, un soir de février, elle est revenue toute seule à la maison. Puis il y avait un gars dans un auto qui l'a rentré dans son char puis qui l'a violé. Fait que ma mère, c'est sûr qu'elle devait être dans tous ses états, là, elle m'a coupé ça un peu, là, ce qu'elle avait vécu à ce moment-là. Puis c'est sa sœur qui a vu à un moment donné qu'elle avait un petit bedon, puis qui a dit, t'es enceinte, toi, on va t'envoyer à Montréal, puis tu vas avoir ton bébé là-bas, puis c'est fini. Fait que là, j'ai su que j'étais le fruit d'un viol. Mais en même temps, je me disais, est-ce que ça change de quoi dans ma vie? Je veux dire, j'étais un être humain, ma mère est une victime. J'ai tellement de... J'admire tellement cette femme-là qui a voulu me garder, de un, qui a accepté d'être séparée de sa famille. Elle ne connaissait rien. Elle avait 15 ans pendant sa grossesse. Elle a accouché, elle venait tout juste d'avoir 16 ans. Fait que pour moi, c'est la Émilie Bordelot. Pour moi, là, c'est une femme de courage que j'admire beaucoup. Fait que ça, c'était pas la passion amoureuse que je pensais. Mais ça n'a rien changé dans ma vie. Mais c'est juste pour dire que je pense que quand on parle d'avortement, je pense que même quand on dit « Ouais, la fille, elle s'est fait violer », est-ce que ça vaut le coup de se faire avorter pour cette raison-là? Moi, j'aurais pas été là. Puis, j'aurais pas été avec mon mari, j'aurais pas eu mes 4 beaux enfants, mes 13 petits-enfants. J'aurais pas eu la vie que je vis là, j'aurais pas connu Dieu, mais Dieu est souverain de tout ça. Il est souverain. Je peux-tu lire le verset? J'avais un verset, je pense que ça. C'est un verset que tout le monde connaît, là, mais pour moi, c'est ça. C'est dans Psaume 139. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, ici dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Donc, peu importe comment on vient au monde, puis je suis souvent confrontée dans le parrainage avec des jeunes filles qui tombent enceintes, puis en Haïti, c'est sûrement comme ça en Afrique aussi, mais les filles, quand ils tombent enceintes, la famille les rejette. Puis moi, en tant que gestionnaire du parrainage, je dis tout le temps, ben elle a tellement besoin de vous en ce moment-là, même si elle a fait la folle, puis qu'elle tombe enceinte, cet enfant-là, c'est un enfant, là. Il n'a rien demandé, il n'a rien fait, tu sais. Mm-hmm. Fait que pour moi, c'est super important que, peu importe comment on n'est pas tous égaux, on est d'accord, mais après ça, Dieu est souverain de nos vies, là.
Mais qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer dans le parrainage?
Bien, en fait, je travaillais pour toi, 100 heures par semaine. J'étais infirmière, j'ai laissé ma profession d'infirmière. Puis, à un moment donné, la fondation m'a demandé de faire 4 heures de plus par mois. Fait que j'ai fait comme, ouais, ça ne fera pas une grosse différence dans ma vie. Fait que je me suis impliquée dans la fondation. Puis la fondation, à un moment donné, l'Ouest canadien n'avait plus les effectifs pour envoyer du personnel pour vérifier comment se passait le parrainage dans le sud d'Haïti. Puis vu que nous, en tant qu'Église, on allait dans le sud d'Haïti, puis je travaillais comme infirmière à l'époque, les gars, parce que c'était juste des gars dans la fondation, ils me disaient, Diane, c'est pour toi ça, tu veux-tu t'occuper de ça? Je dis, oui, sans trop savoir c'était quoi. Et puis, j'ai commencé le parrainage en 2004, l'année que j'ai connu ma mère, en fait. J'ai connu ma mère en janvier 2004, et puis en novembre 2004, je partais pour Haïti, pour un voyage rapidos, pour aller voir ce qui se passait comme dans le parrainage. Puis depuis ce temps-là, je m'occupe du parrainage d'enfants. On est rendu 250 enfants parrainés. Fait que c'est ça.
Puis à chaque année, tu vas les visiter?
À chaque année, oui, il faut que je retourne. Légalement, le gouvernement du Canada nous demande d'aller voir où se trouve l'argent pour pas qu'on fasse du blanchiment d'argent. Mm-hmm. Fait que légalement, je suis obligée d'y aller une fois par année. Et c'est pas du tout forçant, là. Je suis très, très, très heureuse d'y aller. J'aime beaucoup aller en Haïti. Et je revois tous les enfants, je reprends toutes leurs informations, on prend photo, puis après ça, je renvoie ça aux parrains à travers le Canada, les États-Unis. Et puis, je suis le contact entre les enfants et les parrains un peu. Là.
J'ai une dernière question pour toi, Diane, avant qu'on termine l'entrevue. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te regardent sur la toile ou qui sont ici en salle? Quelle différence ça peut faire de parrainer un enfant?
Moi, là, quand je marche dans le village en Haïti, là, je connais pas mal les enfants, mais je vous dirais que je sais visuellement qui est parrainé, qui ne l'est pas. Ça fait une différence énorme. Déjà, ça va être comme ça dans votre programme, je pense, c'est comme ça dans votre programme. L'école est payée par votre don, là, qui chez nous, ça coûte environ 40 $ par mois. Calculez combien ça vous coûte de café chez Tim Hortons ou McDonald's. Là, par mois, on est pas mal proche. Ça donne à la chance à un enfant d'aller à l'école. d'avoir son uniforme, souvent d'avoir un repas par jour qui vient avec l'école. Les parents n'ont pas besoin de trouver l'argent pour cet enfant-là qui est parrainé. Et dans notre programme à nous, il reste un petit montant d'argent pour des vêtements, pour de la nourriture. Les parrains, des fois, font des cadeaux de Noël en argent. Moi, je demande en argent parce que les parents connaissent mieux que nous au Canada. C'est quoi leurs besoins à eux? Fait qu'on envoie un petit montant d'argent pour Noël ou à leur anniversaire. Et ça, ça fait vraiment toute la différence. Si on envoie, par exemple, 40 $, c'est une poche de riz. Puis une poche de riz, ça nourrit plusieurs personnes, pas si longtemps, mais c'est ça qu'ils n'ont pas. Sinon, il y en a qui ne mangent pas du tout ou ils mangent à gauche, à droite, ce qu'ils peuvent trouver. Fait que ça fait vraiment une différence.
Excellent. Merci beaucoup, Diane, pour cette entrevue. J'inviterai Vincent à s'approcher pour prier pour les orphelins. Tu peux rester avec nous, Diane. Alors, Vincent, si tu veux t'approcher. Tout un parcours, hein? Merci de nous avoir...
Ça me fait plaisir. Ça peut servir.
C'est bon. Alors, je vous inviterai à vous lever, puis j'inviterai les musiciens à s'approcher pendant ce temps-là.
Père céleste, Dieu tout-puissant, Papa éternel, nous venons devant ton trône de grâce pour te louer, t'adorer, te glorifier. Parce que quand tu nous as créés, le péché est entré dans le monde et la personne est devenue orphelin. Mais tu as pensé à nous en envoyant ton Fils pour venir nous racheter. Et il nous a démontré l'amour. Et cet amour nous a toujours recommandé d'aimer les orphelins, de les aider, de les protéger. Nous te remercions pour ceux qui ont des parents. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as voulu que ce soit ainsi. Et nous prions pour les enfants orphelins partout dans le monde. Et spécialement Diane, nous prions pour qu'elle puisse encore avoir cette force, pour que tu lui donnes ton esprit pour qu'elle continue à aider les enfants orphelins en Haïti. Mais également, Seigneur, nous te remercions aussi que tu as donné à cette Église le sentier, le cœur d'aider les enfants orphelins. C'est un débit au Burundi, à Mataba. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Et aussi, c'est ce cœur que tu le distribues dans tous les gens, Père, Seigneur, et qu'ils puissent continuer à œuvrer pour ton œuvre à toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous prends la main et tu nous dis tu es le chemin, la vérité et la vie. Mais avec une recommandation que nous devons aimer les orphelins et les veuves et les démunis. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette journée de la commémoration, de savoir combien tu nous aimes, combien nous étions orphelins et que tu as envoyé ton Fils pour nous rendre des enfants adoptifs du Père. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Merci beaucoup. Merci, Diane.